remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8, tous les mercredis en direct, de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Ondes Femmes Radio Zone 93.8 et comme tous les mercredis en direct de 17h à 18h30, c'est Remue-ménage. Aujourd'hui, nous évoquerons le centre de documentation du Bureau de l'égalité du canton de Genève en compagnie de Sylvie, Christina Reichling et Viviane de Radio Pleine Lune. Mais pour commencer, je vous propose d'entamer une sorte de passage documentaire sur la musique de femmes, parce qu'on peut imaginer, on le verra tout à l'heure si ce sera le cas, que le centre de documentation peut-être aussi engrangera de la musique. Eh bien, nous ferons un petit aperçu depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui de quelques femmes qui ont marqué la musique d'autrefois jusqu'à aujourd'hui. Alors tout de suite, une très très ancienne voix. Arletty.
Séducteur, vos façons sont délicates, vous avez un si bon tailleur et de si jolies cravates, mais depuis que j'ai lu du Carrefour, mon homme est Jésus Lacaille, j'en rêve de terreur de costaud, en y pensant je défaille, vous êtes sans gandin, mais par trop mondain, si vous étiez sans coquin, vous auriez une belle casquette, vous ne seriez pas Rupin. Je ne serais pas coquette, vous seriez le grand rouquin du faubourg Saint-Martin, et c'est moi qu'aurais le béguin, si vous étiez un coquin. Au lieu de me faire la cour d'une voix douce et qui tremble, vous diriez ma belle gosse d'amour, tous les deux on est ensemble, au lieu de m'offrir des bijoux, des bouquets et des caresses, vous me prendriez tous mes sous. Et moi je ferai le business. Vous me fatiguez d'être distingué. Si vous étiez un coquin, un vrai de vrai qui dégote, pendant que je serai au turbin, vous vous feriez une belote. Quand je serai sans un rotin, à la place d'un baise-main, vous me flanqueriez des pains. Si vous étiez un coquin, vous dites de la fidélité, c'est le bonheur d'un ménage. Parlez d'exclusivité et de l'amour sans partage. Vous êtes jalouse et cruelle, vous avez un cœur de roche et vous provoquez en duel. Tous les hommes qui m'approchent, je trouve ça rigolo, légèrement ballot. Si vous étiez un coquin, vous me diriez quand j'ai une touche, je suis pas cocu, c'est certain, du moment que c'est moi qui touche. Et puis je trouve ça très bien qu'on paye ce que j'ai pour rien. Est-ce que vous seriez malin si vous étiez un coquin?
C'était Arletty, notre première chanteuse, pour faire un petit peu un parcours documentaire sur les femmes. Bien sûr, ce sera très court, c'est très piqué par-ci, par-là, quelques chansons au gré soit de nos souvenirs, soit de découvertes. Mais tout ça pour agrémenter une discussion bien plus fouillée, celle-ci, sur un futur centre de documentation, mais sur lequel certains et certaines plongent depuis fort longtemps. Alors, Viviane, tu accueilles Sylvie, Christina Reichling. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, effectivement, Sylvie, je t'appelle Sylvie, hein.
Oui.
Ça sera plus simple. Ça fait depuis plusieurs années que vous essayez, avec d'autres, de mettre sur pied un centre de documentation pour femmes féministes. Déjà, quel titre vous allez lui donner ?
Alors, c'est vrai qu'au départ, on a surtout tablé sur l'égalité. Maintenant, ces conditions féminines, ça dépend un petit peu, mais c'est vrai que ça touche de toute façon les femmes et que pour essayer d'être le plus ouverte possible et qu'on ne nous donne pas une image de ghetto, c'est pour ça qu'on a toujours gardé cette idée d'égalité et que ça pouvait concerner aussi bien les hommes que les femmes dans certains domaines.
Donc l'idée, c'est de mettre sur pied un centre de documentation pour les femmes.
Principalement quand même, puisque c'est elles qui ont le plus de peine à trouver la documentation nécessaire, qui est complètement éparpillée dans plein d'endroits.
Ça fait plusieurs années que vous avez réfléchi, que vous travaillez, que vous réfléchissez à mettre sur pied. Alors moi, je suis tombée sur un appel, déjà un appel d'argent, et on le redira plusieurs fois dans cette émission, le centre a besoin de financement aussi, et cherche des financements, disant ce centre va bientôt s'ouvrir. Ça fait combien d'années que vous mûrissez ce projet ?
Écoutez, j'ai pas refait le calcul, mais ça doit bien faire 6-7 ans à peu près que le premier groupe s'est rencontré sous l'impulsion de F-Information qui a eu cette première idée. Et on s'est réunis régulièrement. L'équipe s'est un petit peu modulée. C'est un petit peu varié, mais enfin, il y a toujours un noyau qui tient depuis le départ. On est antérieur au Bureau de l'égalité. Et quand le Bureau de l'égalité s'est créé, eh ben on a tout de suite discuté avec Marianne Frickenecht pour voir comment on pouvait collaborer et avancer, si possible, ensemble, parce que c'est clair que c'est plus rationnel.
Donc, en fait, c'est un bureau indépendant, autonome pour l'instant, qui va être autonome. C'est quand la date de création officielle ?
Alors, en principe, c'est au printemps 93 qu'on nous a promis des locaux. Et puis, je pense pas qu'on pourra ouvrir tout de suite au public. Il nous faut quand même un peu une organisation. Mais enfin, en tout cas, en 93, le centre devrait ouvrir. Proche du bureau d'égalité.
Vous voulez travailler avec elle tout en gardant votre liberté.
Tout à fait. D'ailleurs, on gérera une partie de leur fonds documentaire. Mais en fait, on aura une autonomie et on y tient.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un centre de documentation pour les femmes ?
C'est aussi une définition un petit peu difficile. On essaye d'avoir le plus possible de documents contemporains, de ne pas se lier seulement aux livres, par exemple, d'avoir des brochures, d'avoir des affiches, d'avoir des cassettes vidéo, d'avoir des cassettes audio, pour essayer de créer une mémoire actuelle qui deviendra l'histoire de demain très rapidement, en fait.
C'est ça, donc c'est ce travail d'effectivement garder une trace des actions des femmes.
Oui, bon, et puis il faudra de toute façon revenir un petit peu en arrière. J'entends, c'est vrai qu'il y a des grands classiques qui datent de quelques années, qu'il faudra avoir parce que ça fait partie de tout le cheminement du mouvement. Mais on a eu une discussion et on a des contacts avec des historiennes qui, elles, aimeraient avoir tout un travail sur les archives. Alors, on est aussi en collaboration avec elle, mais disons que la partie de manuscrits, de documents relativement anciens, la limite est toujours difficile à définir, ça sera plutôt elle qui s'en occuperont. Et en fait, le principal dans ce cas-là, c'est d'avoir une adresse, d'avoir un endroit où des femmes d'un certain âge peuvent déposer leurs documents au lieu de les jeter ou de les disperser de nouveau. Un petit peu n'importe où, ou alors de les envoyer en Suisse allemande chez Madame Gostelli, qui a une fondation qui s'occupe d'archives, mais c'est vrai que la partie romande est relativement pauvre, et c'est pas le but que les romandes envoient leurs archives en Suisse allemande.
Mais si j'ai bien compris, est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que le fait que les femmes sont si peu présentes dans l'histoire, en tout cas qu'on nous apprend dans les écoles et c'est dans les livres d'histoire, est-ce que c'est parce que justement il n'y a jamais eu ce recueil des œuvres, des écrits, de la vie des femmes ? Donc les historiens aujourd'hui travaillent sans matériel ou avec peu de matériel ?
Avec très peu de matériel. Moi je pense qu'il en existe, mais il est perdu. Je crois, je prends l'exemple de Anne-Marie Capelli, je crois qu'il a cherché désespérément des documents pour sa thèse, qui s'est promenée à Amsterdam et à Londres et qui, pour finir, les a trouvés à la cave de la BPU, si mes souvenirs sont bons.
C'était donc quoi exactement ?
Je crois que c'était l'association de Joséphine Butler. Mais enfin, c'était chez nous et c'était complètement perdu et...
Donc c'est déjà dommage. Mettre en première chose que vous voulez faire, c'est mettre en valeur toute cette histoire avec un petit H pour en servir de base à une grande histoire.
Pourquoi un petit H ?
Petit H parce que ce sont les histoires de tous les jours et les disons l'histoire avec un grand H serait la.
Écoute, je te laisse
en commun. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je ne sais pas, je crois qu'il y a effectivement les deux choses. Il y a à la fois ces faits et gestes de tous les jours et ces événements qui n'ont pas fait partie des grands livres d'histoire, mais qu'on a toujours passé sous silence et ce qu'on rencontre aujourd'hui qui ont un poids finalement très important.
Bien sûr, c'est là que c'est pour ça la querelle entre petit et le grand, je n'entrerai pas.
C'est simplement parce que, pour reprendre peut-être les termes conventionnels habituels, c'est vrai que ce qu'on appelle le grand H, c'est rarement ce type d'événement-là.
C'est l'histoire des hommes, souvent.
Souvent, c'est vrai.
Pour ne pas dire exclusivement. Et ils se sont bien gardés de mettre le petit H de côté.
Donc, est-ce qu'on arrivera à faire avec des petits H un grand H ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la sensation que ce centre de documentation, il est nécessaire parce que ça deviendra une référence importante à un moment donné ?
C'est notre souhait, en tout cas. Et c'est vrai que plus on discute avec les femmes ou avec des femmes universitaires qui font des recherches, elles se plaignent toutes que c'est impossible de trouver des sources, c'est impossible, on perd un temps fou. Je pense qu'au niveau organisation aussi, si on sait un petit peu mieux ce qui se travaille et ce qui se cherche, il y aura peut-être moins de choses qui se font à double parce qu'on sera au courant de ce qui a été fait et on viendra plutôt chercher que de recommencer éternellement l'histoire du petit ou du grand H.
Donc, le centre de documentation, ça, ce rôle de trace, de garder des traces, est-ce que ça va être aussi un outil pour l'action ?
De notre côté, certainement. Ma foi, il faut aussi voir ce que les hommes et les femmes qui viendront en feront. Parce que j'entends, nous, on est toute une équipe à faire marcher un petit peu ça, enfin à mettre ça en route. Mais après, c'est quand même beaucoup les utilisateurs qui le
font. Mais est-ce que vous allez constituer des manières de vous-même utiliser cette documentation pour... impulser des discussions, des débats, une réflexion qui peut déboucher sur des revendications et des luttes.
Certainement, parce qu'on ne veut pas être un centre de documentation fermé, poussiéreux, comme on a des fois l'idée. On aimerait être quelque chose de dynamique et toucher le plus large public possible. Donc oui, on veut vivre.
Parce que ici à Radio Pleine Lune, je fais les nouvelles. Et je me suis souvent dit que si j'avais gardé, je le garde pas. Je suis très contente qu'il y ait un sens. Je me dis enfin, je pourrais mettre quelque part mon matériel. Par exemple, certains types de nouvelles dont on parle chaque semaine, mais comme un événement isolé. Peut-être que si on les gardait, les mettait ensemble, on se rendrait compte de l'ampleur du phénomène. Je sais pas. Je me dis par exemple, les hommes qui tuent leurs femmes à coups de fusil d'assaut en Suisse. Bon, alors c'est un fait divers quand il n'y en a qu'un. Et puis si on voit que sur une année, il y en a eu 5 ou 6, c'est peut-être plus un fait divers. Alors est-ce que le bureau de documentation pourrait avoir donné simplement par la mise par le rassemblement de ces documents, faire sortir des filons d'histoire ?
C'est souhaitable, mais il faut aussi voir que les moyens dont on dispose ou dont on disposera sont relativement limités. On pourra, je pense, au mieux avoir une documentaliste et une aide. Enfin, ça fera l'ordre d'un poste complet. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus...
On reviendra alors sur cette partie pratiquement. Moyen. Comment vous allez fonctionner? Et tout de suite, passons du côté de l'histoire de la musique.
Oui, je rajoute une petite année à notre documentaire sur la chanson. On passe directement tout à l'heure à Arletty. C'était 1936, bien avant qu'elle joue son rôle magnifique dans Les Enfants du Paradis, c'était 1942 cela, et on saute à pieds joints 1963, et vous reconnaîtrez bien évidemment la chanson.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue. bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mais les jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Oh, quand donc pour moi connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime.
On va décider qu'on fait un petit concours. Si à la fin de l'émission, vous avez trouvé toutes les chansons, vous avez gagné une carte d'auditrice sur Radio Zone, Onde Femme 93.8. Parce que vous savez que les cartes d'auditrice, on en a besoin pour soutenir notre radio. Mais nous en recoserons peut-être tout à l'heure. Et nous redonnons la parole à Viviane et Sylvie à propos du centre de documentation.
Sylvie, j'aimerais que tu me racontes un peu toi. Qu'est-ce qui t'a poussée à te mettre dans cette galère? Premièrement, est-ce que tu as une profession, tu travailles,
j'ai une première profession qui était laborantine en chimie, que j'ai exercée quelques années. Après, je me suis dit que j'avais envie de voir un petit peu autre chose. J'ai fait une licence en géographie, que j'ai terminée. Et puis maintenant, j'élève mes trois enfants et je milite à côté. Je n'ai pas d'activité professionnelle, autre que ces deux activités principales, le militantisme et l'éducation.
Alors pour toi, ce sont des documentations, c'est un militantisme.
Oui, tout à fait.
Alors qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans cette histoire?
Disons que j'adore les livres, déjà je crois que ça c'est la première chose. J'aime bien les avoir, j'aime pas seulement les lire, j'aime les avoir et pouvoir choisir celui que je veux quand je veux. Et puis j'ai collaboré quelque temps à la librairie L'Inédite. Et après, j'avais un petit peu moins de disponibilité régulièrement pour faire les permanences à la librairie. Et à peu près, ça s'est un petit peu chevauché avec le départ de ce centre. Et là, j'y ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction.
Est-ce que dans votre équipe, vous êtes une majorité de femmes qui actuellement n'ont pas d'activité professionnelle?
Alors nous sommes disons que l'association représente à peu près 40 personnes pour l'instant, le comité une dizaine et il y a le bureau en fait, c'est vraiment l'équipe resserrée qui fonctionne très régulièrement. Nous sommes trois à avoir des activités de ce type et la bibliothécaire documentaliste a une activité militante mais a une activité professionnelle en dehors de celle qu'elle exerce au centre.
Mmh. Parce que je me dis, c'est une activité incroyable. Est-ce qu'on ne retrouve pas effectivement chez les femmes qui élèvent leurs enfants et qui n'ont pas d'activité professionnelle plus de disponibilité dans le temps pour qui leur permet d'avancer ce genre d'activité que je trouve extraordinaire.
Ben, faut le vouloir vraiment, hein, parce que c'est vrai que ça jongle un petit peu. Mais disons que je crois qu'on est toutes là à avoir, en tout cas, on est en tout cas deux dans le bureau à avoir des enfants qui sont relativement jeunes et qui ont besoin quand même qu'on soit un peu là. Mais on a toutes les deux besoin d'avoir autre chose en dehors des enfants. Les enfants sont fantastiques, ils nous apportent plein de choses, mais on a besoin de garder notre vie de femme et de militante qu'on a souvent eue avant les enfants.
Et toi, comment ça se fait que tu as choisi plutôt ça, ce type d'activité, qu'une activité professionnelle, par exemple? Parce que je pense que beaucoup de femmes disent, il y a des problèmes financiers, mais disent effectivement que leur activité professionnelle leur sert pour avoir une identité propre hors d'être mère. Alors pour toi, tu la trouves dans cette activité militante. Pourquoi tu as fait ce choix plutôt que de reprendre un travail professionnel, salarié là?
J'ai fait des études relativement tard. Donc, quand j'ai eu fini mes études vers 30 ans, j'avais pas d'enfant encore. Et je me suis dit, maintenant, si je veux avoir la vie de femme que j'ai vraiment envie, les enfants, il faut que je les fasse maintenant. En plus, au niveau professionnel, ce n'était pas fantastique. J'ai fait une licence en géographie. Et quand j'ai terminé ma licence, les études pédagogiques en géographie étaient terminées. Enfin, j'entends, étaient fermées. Donc, ça me laissait de toute façon quelques années pour m'occuper des enfants que j'avais envie d'avoir. Et puis, j'ai mené les enfants et la vie militante. Puis maintenant, j'ai plus le temps de travailler.
D'accord. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Alors, en fait, dans cette organisation, dans ce que vous êtes beaucoup de bénévoles, il y a une seule personne qui touche un salaire.
Oui.
C'est donc celle qui fait déjà vraiment le travail de documentaliste.
C'est celle qui a déjà un travail, qui travaille encore plus, oui.
Et ce salaire, vous l'avez grâce à des subventions. Donc, comment vous pensez vous financer?
Alors, disons que l'argent qu'on a cette année, c'est la subvention qu'on a reçue par le département de justice et police, par l'intermédiaire du bureau de l'égalité. Mais on cherche d'autres subventions, que ce soit au niveau des communes, au niveau de la ville. Mais aussi, on cherche à vendre nos services, c'est-à-dire à d'autres cantons, au bureau de l'égalité des autres cantons. On cherche à vendre nos services. Il y a tout un démarchage qu'il faudra qu'on fasse auprès des partis politiques, auprès des syndicats. Et auprès d'entreprises, on a fait toute cette partie plutôt liée à la population et à l'État, mais maintenant on a toute cette démarche à faire plutôt au niveau sponsoring.
Est-ce que ça veut dire que les clients potentiels devront payer?
Payer peut-être. Disons pour les gens qui viendront au centre pour travailler et étudier, il y aura peut-être une carte de lecteur. C'est vrai que maintenant, je crois que vu les temps qui courent, c'est dur pour tout le monde et que le tout gratuit, je crois que ça sera très difficile. Mais par contre, si une entreprise ou un syndicat nous demande un travail de recherche que nous devons effectuer nous, là, il n'y a pas de raison qu'on ne se soit pas rétribué pour ce service.
Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est les personnes qui aient d'autres personnes salariées. Par exemple, que toi, tu puisses être salariée.
Ah ben, bien sûr.
Par le centre. C'est ça que vous cherchez.
Par des projets précis à un moment donné, quoi.
Oui, certainement, mais peut-être pas forcément moi, parce que moi, je n'ai pas une formation, disons, de documentaliste, et peut-être que certains travaux, ça sera bien que ça soit fait par ces personnes-là. Mais je pense qu'il y a toute la vie d'un centre de documentation qui peut être fait par des personnes qui sont au courant, mais qui n'ont pas forcément le papier bibliothécaire.
Est-ce à dire aussi, Sylvie, quand tu dis qu'il y a d'autres cantons qui peuvent vous demander des services, donc il va y avoir un centre de documentation pour la Suisse romande et ça va être un point de repère pour plusieurs cantons avec des archives ou des documents qui viendront aussi de l'histoire d'autres cantons. Ce serait une action collective de plusieurs cantons.
C'est notre but.
Et comment ça se fait? Parce que je sais, par exemple, que le bureau de l'égalité dans le Jura, elles sont déjà très actives, elles ont sûrement réuni pas mal de choses. Comment vous vous êtes mis d'accord pour qu'il n'y ait qu'un centre de documentation?
Alors bon, les jurassiennes ont un centre depuis très longtemps, donc elles vont garder leur centre, ça c'est clair. C'est vrai que le Jura, c'est un tout petit peu spécial, parce que c'est le seul bureau qui existe depuis longtemps et qui a toute une infrastructure. Mais on va essayer qu'elles fassent certaines choses et que nous, nous en fassions d'autres. Mais il y a d'autres cantons, comme le canton du Valais, qui est en train de se chercher une déléguée pour le bureau de l'égalité. Le canton de Neuchâtel a une déléguée, le canton de Vaud en a une. Et je pense que ces cantons-là ont des problèmes financiers, c'est clair. Donc là, on va avoir un petit peu des difficultés à faire payer certaines choses. Ouais. Mais je crois qu'il faut qu'on le garde dans la création de notre centre. Il faut qu'on garde quelques petites pages. C'est comme une fiche électrique, j'entends. On n'utilise qu'une, mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les trois autres qu'on pourra brancher plus tard. Disons que c'est vraiment notre idée. On démarre, nous, tout en gardant les prises libres pour que les autres puissent se connecter dès qu'elles veulent.
Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me semble intéressant à l'idée d'avoir qu'un seul centre de documentation, c'est qu'il ne va pas y avoir des redites, il ne va pas y avoir accumulation des mêmes documents. C'est intéressant de ce point de vue-là.
Oui. D'ailleurs, nos documentalistes a fait tout un travail pour savoir dans quel canton, enfin surtout dans les bureaux de l'égalité ou les principales associations, dans quel lieu il y a tel abonnement de périodique pour que justement on fasse des échanges et qu'il y ait pas, on soit pas toutes abonnées à la même et qu'une soit complètement perdue parce qu'elle est un peu chère. Il y a ce souci d'être un petit peu rationnel, de pas faire de doublons et de pas faire de pertes, ni de pertes d'informations, ni de surplus.
J'aimerais encore revenir un peu sur votre équipe. On a dit, votre but, c'est quand même d'être salarié, d'être payé. Est-ce que vous avez quand même envie de garder cette structure mi-militante, mi-professionnelle?
Tout à fait.
Comment est-ce que vous allez gérer cette histoire?
Je crois que déjà, la vie du centre existera en tant que centre de documentation, mais l'association que nous avons créé il y a une année à peu près pour la création de ce centre changera peut-être de nom, mais existera toujours. Et elle aura des activités et aura des actions. Elle continuera à vivre, cette association.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habite peu à peu. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. M'envelopper, me capturer, déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse, en souplesse. Choisissez bien les mots, dirigez bien les gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Déshabillez-vous.
1966, Juliette Gréco. Et pour continuer, une chanson qui est un film surtout, vous verrez.
Comme nos voix, badabada, dabadabada, chante tout, badabada, dabadabada, nos cœurs, badabada, dabadabada, comme nos chants.